Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Catherine Pinguet, co-commissaire de l'exposition Salonique, Jérusalem des Balkans 1870-1920, proposée actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Bonsoir Catherine.
Bonsoir.
Juste avant de commencer, évidemment, dire que nos pensées vont vers nos frères israéliens qui ont connu l'attaque la plus meurtrière de leur histoire depuis la création de l'État hébreu. Aucun mot ne sera assez puissant pour dire notre indignation et adresser tout notre soutien à celles et ceux qui luttent pour la survie d'Israël et la liberté de tous les Juifs du monde. La ville de Salonique, aujourd'hui Thessalonique, située au nord de la Grèce, fut longtemps un des joyaux de l'Empire ottoman. Elle a accueilli une importante communauté juive au point qu'elle fut qualifiée de Jérusalem des Balkans. Cité cosmopolite, phare du judaïsme séfarade, même si des groupes ashkénazes s'y trouvaient, elle a accueilli les rabbins les plus recherchés du Levant. L'épisode du faux messie Sabbata Izvi qui séjourna dans la cité sonna le début du déclin de la ville qui reprit son élan avec l'arrivée des familles juives italiennes qui régénèrent le judaïsme et développa des relations ténues avec les autres communautés. La Shoah vit périr la quasi-intégralité des habitants juifs de la cité et pourtant Salonique reste associée à une image idyllique du judaïsme séfarade dont témoignent les 150 photographies présentées actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Avec Nicolas Feuilly, vous êtes co-commissaire de l'exposition, je rappelle le titre, Salonique, Jérusalem des Balkans, 1870-1920, la donation Pierre de Gigor, qui est proposée hommage jusqu'au 21 avril prochain. Les photographies restituent l'histoire de Salonique de la seconde moitié du 19e siècle à la fin de la Première Guerre mondiale. Il y a les tirages albuminés du premier photographe local Paul Zebji, les négatifs sur plaque de verre inédit d'Ali Ennis, Drogman au consulat d'Allemagne, mais aussi des autochromes, des albums de photographes amateurs, des documents du service photographique de l'armée d'Orient, des cartes postales, des brochures et magazines, et tout cela qui raconte la vie de la cité et qui font revivre un monde disparu dans les affres de la Shoah. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Catherine, la genèse de cette exposition? Est-ce qu'elle est liée à la donation de Pierre de Gigor?
Non, en fait, c'est Pierre de Gigor qui m'a demandé. Il y avait un projet d'exposition à Athènes avec l'ambassadeur de France et qui n'a pas abouti. Donc, il m'a demandé de faire des recherches sur Paul Zebji. Et mon précédent livre porte sur les Arméniens. Les Arméniens étaient pionniers de la photographie dans l'Empire ottoman, donc je connais mieux la communauté arménienne par le prisme de la photographie. Donc il m'a demandé de faire des recherches sur Paul Zebji, qui s'appelait Bogos Zirbjian, qui avait débuté à Smyrne, qui avait peut-être été formé dans l'atelier des frères Abdullah. Alors Abdullah, on peut penser qu'ils ne sont pas arméniens, mais ils le sont. Et c'était les premiers photographes officiels de la cour impériale ottomane. Donc pour Zebji, ça a été relativement facile, encore que Zebji est surtout connu, si on va maintenant à Thessalonique, les gens vont dire on connaît les photos de Zebji parce qu'ils ont été reproduites sous forme de cartes postales. Or, Pierre de Gigor a des papiers albuminés originaux qui sont rares, donc qui sont exposés hommage et qui sont également dans mon livre. Ce n'est pas toujours la même sélection, puisque Pierre n'a pas pu donner hommage à des albums mixtes, c'est-à-dire c'était des albums anciens, extrêmement coûteux maintenant, et qui ont plusieurs photographes, vous voyez. Donc j'en ai montré, parce qu'il y a eu une table ronde dimanche dernier hommage, j'en ai montré, mais qui ne figure pas dans la donation. Ensuite, il m'a demandé de faire des recherches, là ça allait aboutir à un livre, sur le second photographe que vous avez évoqué, Ali Ennis, qui était Drogman, donc photographe amateur, qui a débuté en 1900. On le sait parce qu'il revenait de Paris, de l'exposition universelle. Il s'est fait former, à Vienne. Donc c'était un amateur, mais extrêmement talentueux. Et donc là, Pierre a fait une donation de, enfin, je ne sais plus combien il y en a, mais des plaques de verre. Et là, elles sont totalement inédites. Et ce que j'ignorais, parce que j'avais d'abord fait l'inventaire de la collection Pierre de Gigor, je pensais qu'il n'en avait pas énormément. Or, il a un placard entier, c'est-à-dire qu'il en a 300 au moins un minimum sur Salonique, et 800, puisque Ali Ennis a quitté Salonique quand la ville a été reprise par les Grecs en 1912. Il a fait carrière, ce n'était pas non plus sa profession, mais il a réalisé énormément de photographies à Istanbul. Voilà, donc ça a été le coup d'envoi. J'ai d'abord pensé faire un livre sur Aliénis, et puis on m'a dit ça n'intéressera personne, ce qui est vrai. Donc plutôt faire un livre sur... parce que j'allais aborder toute l'œuvre d'Aliénis. Finalement, on s'est centré sur Salonique, et au départ, je n'étais pas partie pour faire un livre seul, mais plutôt un ouvrage collectif. Mon éditeur, CNRS Éditions, avec qui j'ai réalisé un troisième ouvrage, là c'est mon troisième ouvrage, a préféré que je l'écrive seule. Donc je me suis lancée dans une quantité de lectures. On était en troisième confinement. Pierre m'a procuré tous les livres dont j'avais besoin, c'est-à-dire qu'il les a achetés, y compris les 7 volumes de Néama. Et donc voilà, c'est parti comme cela. Donc au départ, c'était un livre sur l'histoire de la ville. Donc comme vous disiez, seconde moitié du 19e siècle, et puis je m'arrêtais après la Première Guerre mondiale. Évidemment, dans l'épilogue, j'évoque l'entre-deux-guerres et l'occupation nazie et la destruction de la nécropole juive et les déportations. Mais ça, c'est dans mon épilogue, et là, il n'y a absolument aucune photo.
Donc ce livre qui a été publié et qui accompagne l'exposition. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de vos références universitaires ? Vous êtes chercheuse associée au Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centra-asiatiques au CNRS EHESS. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur cette région. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques titres ?
Alors en fait, quand j'ai habité 12 ans à Istanbul, quand j'étais à Istanbul, j'ai surtout travaillé sur une minorité musulmane non reconnue comme telle qui s'appelle Alevi. À Lévis, et une confrérie soufie qui s'appelle Bektachi. Quand je suis rentrée en France, je me suis plus intéressée aux minorités, ou ce qu'on appelait les millettes, dans l'Empire ottoman, la communauté grecque par les îles des Princes. D'ailleurs, François Hazard, beaucoup connaissent bien Principo, c'est-à-dire Büyükada. Mm-hmm. C'est là où se trouvaient les grandes résidences. J'ai consacré un livre à la communauté grecque qui était vraiment majoritaire au large d'Istanbul. Et puis après, un peu par hasard, c'était une commande à la photographie ancienne. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de Pierre de Gigord il y a à peu près 15 ans. Entre-temps, j'ai écrit un livre sur les chiens d'Istanbul, c'est-à-dire l'histoire des chiens errants, qui est maintenant un sujet qu'a le vent en poupe. C'est l'histoire d'une cohabitation urbaine homme-animal à Istanbul du 19e siècle à aujourd'hui.
Alors Salonique, est-ce qu'on peut dire que c'était une ville majoritairement juive jusqu'à la Shoah ? Et comment était-elle composée ? Qui étaient ces différents groupes juifs qui l'habitaient ?
Alors, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, tous les grands ports de Levant étaient des grandes villes cosmopolites. Hein, Smyrne, Beyrouth et Salonique, au tournant du XXe siècle, était la quatrième plus grande ville de l'Empire ottoman. Mais la particularité de Salonique, tous les voyageurs l'ont remarqué. Je cite par exemple un ambassadeur américain, Cox, qui a d'ailleurs écrit sur Principo, les îles des Princes, donc je le connais. Et donc ils sont tous surpris quand ils arrivent qu'ils sont tous ils sont juifs, quoi. Et en plus, ils sont habillés des fois comme des Turcs. Ils ont le turban, etc., parce que ce sont des travailleurs, des bateliers, des aux douanes aussi, enfin, donc ils sont très surpris. Donc c'est effectivement, au tournant du XXe siècle, c'est plus de la moitié de la population. Et ce qui m'a passionné, ce que vous avez évoqué aussi, les Sabbatéens, que les Turcs appellent les Dönmés, je savais qu'ils étaient nombreux à Salonique, mais par contre, je ne savais pas qu'ils étaient aussi nombreux et aussi à des postes clés, en tant qu'hommes d'affaires, et surtout le maire de Salonique, Hamdi Bey, après son fils, après le neveu. D'ailleurs, jusqu'à la prise de la ville, la reconquête de la ville par les Grecs, c'est toujours un Sabbatéen qui reste à la tête de la municipalité.
Alors, l'exposition le montre bien, la différenciation, les divers groupes juifs. Il y a des clichés qui sont totalement inédits sur ces données, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? On parle parfois de crypto-juifs, de crypto-sabbatéens, un peu comme les maranes étaient des crypto-chrétiens. Est-ce qu'on peut les comparer ?
Alors, je l'explique plus dans l'exposition, c'est très bref. Hein. On a des photos de la construction de la mosquée des Dönmés. D'ailleurs, je soupçonne Aliénis d'avoir appartenu à cette communauté. Et on a la photo de l'inauguration qui est très vivante. On voit que ça attire des foules. D'ailleurs, quand les Dönmés vont devoir partir, donc les Sabbatéens vont devoir partir au moment de l'échange de population de 1923, ce sont les derniers à partir. Les Turcs vont les appeler Selanikli, c'est-à-dire les Saloniciens. Tellement ils étaient identifiés à la ville. Alors, pour expliquer les partisans de Tsevi, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont formé trois groupes distincts que j'évoque un petit peu dans l'exposition, beaucoup plus dans le livre. Alors, il y a eu les disciples du beau-frère et successeur de Tsevi, qui s'appelle les Yacoubi. Après, il y a un autre groupe qui s'est plus proche d'une confrérie que j'évoquais tout à l'heure, les Bektachi, qui se disent proches d'un juif qui s'est converti à l'islam, qui s'appelait Ousmane Baba. Et d'ailleurs, il est troisième groupe. Alors, c'est une grande famille de Salonique. Alors, les deuxièmes s'appellent les Karakash, qui veut dire sourcils noirs, je ne sais d'ailleurs pas pourquoi. Et le troisième, qui était très puissant à Salonique, c'était les Kapanje, du nom d'une grande famille qui était une des plus grosses fortunes de la ville. D'ailleurs, il y a encore deux villas de Kapanje qui existent à Salonique. Et ils avaient pour caractère... Alors, il y a eu des tonnes de ragots sur eux, hein, parce que qu'est-ce qu'ils étaient, des crypto-juifs, etc. On pense plutôt qu'ils, pour être simple, c'est qu'ils pratiquaient ce qu'on appelle dans le soufisme la taqiya, c'est-à-dire ils gardaient leurs croyances cachées. Alors, qu'est-ce qui s'est pratiqué dans le privé? On a très peu de documents. En France, on n'a pratiquement rien. Bon, il y a Cholem, bien sûr, mais c'est plutôt sur Tsevi. Il y a deux ouvrages en anglais de référence qui sont parus il n'y a pas très longtemps à l'université aux presses d'Oxford et de Stanford, qui m'ont été très utiles pour identifier d'ailleurs certains sabbatéens sur des photographies. Et ils étaient des vecteurs de modernité, puisque c'est eux qui ont fondé les premières grandes écoles, à peu près au même moment que l'Alliance israélite universelle, donc vous voyez, c'est très tôt, des écoles modernes. Alors les deux groupes distincts, deux écoles distinctes, mais bon, ils n'étaient pas ennemis, hein, loin de là, et des écoles modernes pour filles et garçons. Et d'ailleurs, Mustapha Kemal, qui est né à Salonique, a été éduqué peu de temps, mais dans une école fondée par un de mes, que j'ai identifié sur une plaque de verre inédite.
Donc, et qu'on voit
hommage.
Est-ce que ça pourrait signifier qu'il était de mes?
Oui, alors là, attention, c'est quand les sabbatéens sont rentrés à Istanbul. Bon, ils se sont vraiment illustrés en tant que, je l'évoque dans le livre, en tant que cinéaste, les YPG, et puis aussi comme journaliste. D'ailleurs, l'un d'entre eux s'est fait assassiner. Donc, c'était des gens qui étaient dans le domaine artistique, mais après, il y a eu tellement de calomnies sur les Donmés qu'il y a eu des mariages mixtes. Alors avant, ils pratiquaient une stricte endogamie. Hein. Et en fait, il n'est pas de bon ton de revendiquer à l'heure actuelle qu'on est descendant de Donmé. Sauf qu'il y a une cinéaste turque que je cite, elle est dans les remerciements de mon livre, qui travaille depuis 10 ans à un film. Elle est descendante de Donmé par son père, qui était petit neveu, ou je ne sais plus, qui est dans l'expo, qui est dans le livre de le ministre des Finances, qui était un économiste brillant qu'on appelle le Gambetta de la Nouvelle Turquie, Cavit Bey. Et elle travaille depuis 10 ans sur un film. Elle a voyagé un peu partout dans le monde entier pour retrouver des sabbatéens. Et elle cherche des financements d'ailleurs pour terminer son film. Bon, en Turquie, c'est pas simple, hein, je peux vous dire. Et elle m'a dit que tous les samedis, il y a un groupe ils se réunissent sur Skype ou sur je ne sais quoi. Et ils se réunissent, ils s'échangent des informations. Donc, il y a des gens qui ont un retour à leurs origines, mais il n'est pas de bon ton de le crier sur les toits. D'ailleurs, dans mon livre est dédié, comme beaucoup de choses que je fais, mon dernier livre, l'exposition que j'ai aussi chargée d'organiser au Centre du patrimoine arménien de Valence, qui a encore lieu à l'heure actuelle jusqu'à fin décembre, je dédie ce travail à Osman Kavala, dont on parle tout de même de temps en temps, qui est incarcéré depuis 5 ans, un mécène, un ami. Et comme il est de Kavala, n'est-ce pas? Il est de bon ton de ses ennemis, pour le critiquer, pour le calomnier, de dire qu'il est de Donmé. Et je ne lui ai jamais demandé s'il était de Donmé, enfin ça ne m'intéresse pas.
En tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit certains lieux liés au monde de Donmé dans cette exposition. Il y a aussi d'autres lieux que l'on voit, c'est notamment le quartier des campagnes, ou le quartier délimité par la Tour Blanche, le quartier juif, avec les fameuses familles francos, ces familles originaires d'Italie, de Livourne pour la plupart, comme les Alatini, Modiano, Fernandez. Est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient-ils et pourquoi sont-ils arrivés à Salonique?
Ils ont quitté l'Italie quand l'Italie, c'était plus un port comme cela avait été avec le... C'était au XVIIe siècle, n'est-ce pas ? Enfin, plutôt XVIIIe siècle. Ils sont arrivés pour des raisons, pour fonder une... Enfin, ils n'étaient pas obligés de fuir la Toscane, hein, mais enfin, je pense que vous connaissez d'ailleurs mieux la famille latinique, moi-même. François Hasard expliquait d'ailleurs, parce que la société juive était quand même très, très hiérarchisée. Alors, il y avait les peu nombreux, mais les très riches, et les Alatini, c'était pas les mêmes que, vous voyez, une classe riche, mais qui n'était pas, les alliances ne se faisaient pas. C'était presque des dynasties, quoi.
C'était des familles aristocratiques qui sont arrivées au début du XIXe siècle, poussées par les avantages financiers que leur proposait leur statut de juif européen, enfin, et pas levantin. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on les appelait les francos, parce qu'ils étaient protégés par la France, qu'ils avaient un statut particulier qui faisait que le commerce était plus facile. Et donc, dans l'exposition, on voit une nouvelle fois des photographies totalement inédites liées à ces familles.
Alors, on voit la Villa Latini, on ne voit pas la Villa Modiano, on voit l'avenue qui passe à côté.
On voit une arche à Latini qui a disparu totalement.
Ah non, c'est normal, parce que toutes les arches, c'était quand il y a eu la visite. Alors, d'ailleurs, le sultan Abdulhamid, lors de sa destitution, a été emprisonné, qui n'appartenait plus à la famille Latini à l'époque, hein, mais a été emprisonné jusqu'à l'arrivée, juste avant que les Grecs n'arrivent et ne reconquêtent. La reconquête. Il a été transféré à Istanbul, au palais de Belarbe. Mais donc, il y a encore cette Villa Latini. Les Capranger aussi. Bon, beaucoup de ces villas ont été détruites à une époque où c'était plus lucratif de les détruire que de les conserver.
Mais cette villa existe toujours. C'est la sous-préfecture de la Macédoine. Et il y a peu de temps, enfin 2 ans, un des descendants de la famille Latini, qui est un des fils d'Asso, puisque son arrière-grand-mère était Sophia Latini, a inauguré dans les jardins de la Villa Latini un buste de Louisa Latini.
Et il y a eu un colloque auquel a participé un ami, Loïc Marcou, qui vient traduire le témoignage du sondeur commando Nadjari.
Alors les Demnés, les Francos, et la majorité des Juifs étaient des petites gens, est-ce qu'on peut dire ça comme ça ?
Alors, donc il y avait la classe, la haute société, il y avait la classe intermédiaire, qui était quand même nombreuse, hein, c'était des artisans qualifiés, des petits banquiers. Bon, Néama, par exemple, ça n'a jamais été, il est devenu banquier, Joseph Néama, ça n'a pas été des grosses fortunes. Donc il y avait tout ce monde extrêmement actif de la classe moyenne et la très grande majorité, effectivement, de pauvres. Alors, vous évoquiez les campagnes, effectivement, elles sont extrêmement représentées dans l'exposition parce qu'Aliénis a énormément photographié les belles villas, les quartiers, qui étaient aussi un quartier mixte, hein, les campagnes, il n'y avait pas que les très très riches. Mais par contre, ils n'ont jamais photographié la partie ouest, qui est la partie industrielle, alors que Salonique était la plus grande ville industrielle de l'Empire ottoman, avec 17% de la population d'ouvriers et d'ouvrières. Les ouvrières particulièrement exploitées, même quand il y a eu les grèves et qu'on a voulu rehausser les salaires après la révolution jeune turque, et on ne les voit jamais. Alors avec Nicolas Feuilly, on a trouvé une plaque stéréoscopique où des ouvriers, alors on s'est empressé de la reproduire, devant la briqueterie à Latini, on voit une petite fille, les pieds nus, bon, voilà, mais il faut vraiment se munir d'une loupe, et puis mais en fait ce sont les grands absents des photographes. Où on a, par exemple, on a la brasserie Olympos, on a ces grandes industries qui sont... Mais on n'a pas le personnel. Aussi, à un moment donné, on voit le moulin à Latini. Pierre de Gigord a acheté cette photographie au dernier moment. Et on voit des ouvriers qualifiés devant le moulin. Mais c'est tout. Alors que dans l'Empire ottoman, surtout Abdulhamid, comme il voulait rattraper le retard par rapport à l'Europe, il a fait photographier les usines, les chantiers, etc. À Salonique, on ne voit pas.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Catherine Pinguet qui nous parle de Salonique, Jérusalem des Balkans, 1870-1920, une exposition proposée actuellement au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Il y a au moins 3 événements qui sont des étapes dans cette période référencée au cours de l'exposition. Ce sont les 2 grands incendies, et puis la période où l'Empire ottoman prend fin pour laisser place aux joues des Grecs. Qu'est-ce que ça change pour les communautés juives locales ?
Alors, le premier incendie, il y a très peu de photos, on les a de Zebji, vous en avez dans l'exposition. Les incendies ont lieu dans la base ville. La base ville, la ville historique, qui est la ville de la communauté juive, densément peuplée. Donc, ça, c'est l'incendie de 1890, où ils reconstruisent. Et souvent, d'ailleurs, ils rachètent, en fait, ils reconstruisent à l'emplacement, un peu de manière différente. Mais on le voit d'ailleurs sur une photographie de Sainte-Sophie, parce que Sainte-Sophie était dans le quartier juif, la basilique, qui était transformée en mosquée par les Ottomans. Mais on voit le nouvel habitat sur une des photos autour. Mais surtout, le baron de Hirsch, qui était aussi à la tête au départ des chemins de fer orientaux, il y a une affiche dans l'exposition.
Elle est magnifique, cette affiche.
C'est la seule affiche de l'Orient Express où on a Salonique. Donc c'est pour ça qu'elle est exposée. Et on a des photos de gens sur le quai de Salonique. Alors on voit le mélange de population, mais on voit surtout sur une photographie beaucoup d'hommes juifs, jeunes, plus des enfants. Parce que à Jouxte, le quartier Hirsch, qui a été fondé par donc, le baron Maurice de Hirsch et sa femme, pour accueillir les sinistrés de l'incendie 1890 et aussi les juifs qui fuyaient les pogroms de Russie. Donc il y a cet événement. Après, il y a le grand incendie. Alors là, on a des tonnes de photos parce qu'il y avait l'armée d'Orient qui était sur place. Elle avait un service photographique, elle avait aussi un service cinématographique. Ce qui fait que dans l'exposition, on a des séances, des reportages. Bon, avec Nicolas Feuillet, il a découpé parce qu'on ne peut pas faire des films très longs. Mais on peut voir l'incendie, pendant l'incendie, après l'incendie. Et puis on peut voir aussi, donc ça c'est en ligne, hein, Image Défense, la sortie du Talmud Torah pour les fêtes de Pâques en 1916. Donc tout cela était extrêmement documenté parce qu'il y avait les armées, c'était la base arrière de l'armée d'Orient. Alors, pour revenir à la question de 1912, la conquête de la ville par les Grecs, et là je rebondis sur ce que vous disiez pour les Arcs de Triomphe, c'est qu'en 1911 vient celui qui succède, d'ailleurs c'est son frère, à Abdulhamid, le sultan Abdulhamid, qui lui est emprisonné à la Villa Latini, c'est Mehmet V Rejad. Bon, il est en fait sous la coupe des jeunes Turcs, hein. Mais enfin, il vient. Et là, tous les arcs de triomphe qu'on voit, il y en avait énormément, il y en avait au moins une trentaine, mais ceux qui sont les plus spectaculaires sont ceux de la communauté juive. Donc c'est pour ça qu'on les a exposés, ils sont aussi dans mon livre. Parce que eux, même un groupe qui a fait dissidence et qui est plus sioniste, ils voudraient que les Ottomans restent et ils voudraient continuer comme c'était. Donc pour eux, c'est une catastrophe quand la ville repasse. Bon, il y avait déjà, depuis, je l'évoque, en plus il y a un album qui a été offert en pleine affaire Dreyfus, au couple Blunt, qui était lui consul d'Angleterre pendant 35 ans à Salonique, qui ressemble sur certaines planches à l'album offert par les Saloniciens à Émile Zola. Donc c'est vraiment à partir de l'affaire Dreyfus qu'il va y commencer à y avoir des attaques contre les Juifs.
Et donc le second incendie de d'août 1917 qui balaie complètement la ville juive.
Alors l'incendie de 17, déjà ça va être un traumatisme terrible. D'ailleurs dans l'exposition on a des chansons, il y a une chanson sur l'incendie de Salonique, il y a plusieurs versions. C'est un traumatisme parce qu'il y a quand même 32 synagogues qui brûlent, les archives communautaires, les bibliothèques, enfin on a des photos aériennes. Et en plus, donc les Grecs, quand ils arrivent, il va y avoir la concurrence des hommes d'affaires grecs. Après, il y a l'échange de populations, toutes ces populations pauvres qui arrivent. C'est-à-dire qu'il va y avoir des départs. Il va y avoir des départs. Déjà, les départs vont dater des jeunes Turcs parce qu'ils vont imposer la conscription obligatoire. Donc, il y a beaucoup qui ne veulent pas être embarqués dans la guerre des Ottomans et des Italiens. Donc, beaucoup déjà partent. Enfin, beaucoup. Ceux qui sont au soutien de famille, ils ne veulent pas faire rentrer en guerre ni faire leur service militaire dans les rangs de l'armée ottomane. Après, ils partent au moment de l'incendie. Et après, ils partent pour des raisons, pas seulement, mais essentiellement économiques, durant l'entre-deux-guerres.
Alors, l'exposition se termine en 1920. On sait tous que la Shoah est passée par là et qu'elle a quasiment totalement détruit la population juive de la ville. Est-ce que justement les clichés, les photos, les tirages, les archives qu'on peut avoir, eh bien, en ce sens, sont un témoignage exceptionnel d'une vie qui n'existe plus, et notamment se présenter hommage aujourd'hui?
Bien sûr, ne serait-ce que, bon, on termine avec des autochromes, on a fait des agrandissements, c'est la nécropole juive. Donc elle est menacée de destruction très tôt, dès l'incendie, même avant. Hein. Mais dès l'incendie, il y a un plan de réurbanisation de toute cette zone, et c'est d'ailleurs Ernest Hébrard qui prévoit d'en faire un campus, de raser cette nécropole, qui faisait tout de même 35 hectares. Les plus anciennes stèles étaient la fin de l'arrivée des Séfarades au XVe siècle. Et donc, ils vont la raser en un temps record. C'est les nazis qui donnent l'ordre, mais enfin, bon, c'est pour faire plaisir aux Grecs qui convoitaient cette nécropole. Donc là, on le voit. Et puis, on voit tous ces bâtiments. Et puis, par exemple, les cinémas, je sais, en lisant des tonnes de choses, j'ai dit, tiens, là, c'est le cinéma Pathé des frères Cohen. Là, c'est le coiffeur Barou. Là, c'est. Bon. Et d'ailleurs, le livre a bénéficié d'une aide, d'un soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et j'étais chargée de présenter mon livre en disant, mais mon livre n'est pas un livre sur la communauté juive. Mais tout de même, ils étaient présents à tous les échelons. Donc, évidemment qu'on les voit, par exemple, ils avaient des monopoles dans certaines professions. Donc, celui des porteurs, les hamals, des bateliers, tout ça. Donc, ce qui fait que le Shabbat était respecté par tous. Les bateaux n'allaient pas accoster un samedi, sachant qu'il n'y aurait personne.
Alors justement, quels étaient les autres groupes qui cohabitaient avec les Juifs?
Alors les Ottomans, pour commencer, les Ottomans, faut pas oublier quand même, Salonique a toujours été perçue pour les Ottomans d'Istanbul comme la ville d'Europe de la modernité. C'est là qu'est né quand même les premiers mouvements aussi sociaux, ouvriers, hein. C'est Abraham Benaroya. Donc j'arrive à en parler dans l'exposition, parce qu'il y a quand même une photographie de grève des trams après la révolution jeune turque. Comme les photos ne montrent pas grand-chose, il faut faire des cartels qui ouvrent des fenêtres.
C'était les autres groupes qui composaient la ville.
Alors les Grecs, évidemment, hein, c'était environ 20% de la population. Alors les statistiques, faut se méfier. Il y avait les Bulgares qui ont été obligés de partir à l'issue de la deuxième guerre balkanique. Il y avait des Albanais, il y avait des Valaques, il y avait des Tziganes, il y avait des. Donc ça, ils sont plus présents dans le livre. Donc c'était une ville. Oui, après, bon, il y a eu des tas de rivalités entre Grecs et Bulgares, les guerres en Macédoine, tout le problème des Balkans, que j'évoque un petit peu dans le livre, mais c'est extrêmement complexe. Il y a eu des attentats, par exemple, en 1905, ils ont fait sauter la banque ottomane. Bon, c'est une région qui commence à être une poudrière tout de même. Convoitée, hein. D'ailleurs, c'est le titre du livre de Néhamat, publié en 1914, hein, Salonique, la ville convoitée. Et d'ailleurs, pour mon livre et aussi pour l'exposition, on y tenait tout particulièrement, parce que cette exposition s'adresse à des gens qui ne sont pas supposés connaître l'histoire de Salonique du tout. Donc, on a fait une chronologie. Donc, évidemment, on commence avec la création de Thessalonique par le roi de Macédoine et on va jusqu'en 1943, en donnant les éléments clés de la ville. Alors évidemment, pour l'exposition, on insiste plus ce qui est en relation avec la communauté juive. Alors, vous m'avez aussi posé la question sur les communautés. Bon, majoritairement, c'est sûr, séfarades, pas exclusivement, comme avait tendance à le dire Joseph Néhamat. Il y a des Ashkénazes. D'ailleurs, j'explique qu'ils ne sont pas très bien vus. Par exemple, ceux qui vont fuir la Russie ne vont pas rester très longtemps. Ils sont vraiment discriminés. Ils sont traités de prostituées pour les femmes, de proxénètes pour les hommes. Qu'on oublie quand même assez souvent, c'est les Romagnottes.
Qui étaient là depuis le début de
l'installation. Très longtemps, oui, parce que c'est des Juifs hellénisés. Alors, concernant le titre, la Jérusalem des Balkans, c'est vraiment, bon, il y a aussi la mer d'Israël, etc. C'est vraiment durant l'entre-deux-guerres que ces noms-là vont faire florès, parce que c'est là que la communauté va se sentir menacée. Surtout à travers la nécropole. Et donc là, il va y avoir des tonnes d'études, mais quantité. Et là, on va commencer à se référer à l'histoire, parce qu'avant, on n'écrivait pas l'histoire des Juifs, puisqu'il n'y avait pas de problème. On n'avait pas à l'écrire. Et c'est quand les Grecs arrivent qu'on commence vraiment à écrire Néama, c'est 1914. Donc, c'est là qu'on va vraiment, il va y avoir pléthore de publications pour dire, on est là, on était là depuis tant de temps, et ils vont revenir justement aux Romagnottes. Voilà.
Alors, le parcours de l'exposition se termine par une archive sonore très émouvante. Ce sont des chants judéo-espagnols chantés par un descendant de ces Juifs de Salonique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot?
Oui, là, j'y tenais parce que, bon, même si on peut les écouter sur YouTube, tout simplement, je connais d'ailleurs la personne que j'avais perdu de vue depuis 30 ans, Nikos Tsanis, qui a proposé à David Saltiel d'enregistrer avec un accompagnement sonore, alors que David Saltiel chantait a cappella. Donc, David Saltiel, c'est très émouvant. Puis, bon, il avait 10 ans lors des déportations et les parents ont fui à 100 km au nord de Salonique, dans une région où les Grecs ont protégé les Juifs, donc de cette ville et des campagnes. Donc, il est revenu à Salonique et c'est quelqu'un qui, à part l'intermède de l'occupation nazie, n'a pas quitté sa ville. Quelqu'un de pas. Et donc, il a appris les chansons de sa mère, de sa grand-mère, et à une époque où pratiquement plus personne parlait judéo-espagnol, parce qu'ils étaient tous, ils parlaient tous grec. Donc, ça se perdait de génération en génération. Et il a enregistré ses chants. Et j'ai même inclus l'introduction où il explique. Alors, il fallait transcrire le judéo-espagnol, évidemment, c'est pas moi qui l'ai fait, et traduire en français ce qu'il dit, et c'était en 1995, et à l'époque, il était désespéré, parce qu'il dit « tout se perd ». Alors que à la fin des années 90, il y a le maire de Thessalonique qui a mis les choses au point, en disant « c'était voilà l'université Aristote est sur la nécropole juive, et il y a eu ces déportations, il y a eu des commémorations à l'ancienne gare.
Il y a une plaque qui a été apposée aussi.
Il y a eu une plaque. Donc ça, c'était le maire de... Et il l'a bien dit, parce que certains disaient, ah oui, mais... Et il a reconnu la collaboration. Bon, il y a des tas d'études maintenant. Mmh. Mais ça a été assez tardif. Donc, bon, c'est expliqué pourquoi. On peut expliquer pourquoi ça a été assez tardif, mais maintenant il y a une reconnaissance. Il y a le musée juif à Thessalonique, il y a des études de grec, mais il a fallu du temps. Et quand David Saltiel a enregistré cela, c'était merveilleux qu'on ait ces enregistrements. Et c'est pour ça que je tenais à ce qu'il soit. On en a choisi trois. Un ami d'ailleurs, dont les parents étaient originaires de Salonique, François-Olivier Mordoet, a traduit en français et donc vous avez lors de l'exposition la traduction avec l'accent aussi judéo-espagnol de Salonique parce que il y a des emprunts par exemple moi je connais plus à Istanbul mais les emprunts sont pas les mêmes ils peuvent emprunter des mots turcs des mots grecs voilà puis il y a un accent alors là on l'a avec David Saltiel.
Alors, l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel organise un grand colloque international sur les langues judéo-espagnoles et les différentes versions de cette langue au mois de novembre. Il y a une question classique, mais non moins difficile, pour terminer cette émission, c'est de donner l'envie, en une ou deux phrases, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom de venir à l'exposition. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire?
Alors là, je ne sais pas quoi répondre. Bah, vous aurez des documents visuels absolument exceptionnels parce que c'est la vie saisie. Bon, il y a qu'à regarder l'affiche, qui a été sélectionnée d'ailleurs et par le MAJ pour l'affiche et pour mon éditeur pour la couverture. Mais il y en a d'autres, c'est-à-dire qu'on saisit des instantanés de vie avec tous les costumes de l'époque et puis bon, on n'a pas le son, comme disait Pascal Sabel, c'est dommage qu'on n'ait pas le son. On a un peu les couleurs avec les autochromes, mais c'était une ville foisonnante, enfin, qui était très... Surtout la basse ville, évidemment.
On a les chants à la fin, oui.
On a un petit peu de son, mais comment les gens parlaient... Enfin, on disait que l'armée d'Orient, ils ont beaucoup écrit sur cela en disant c'était quoi? C'était le Babel des langues, etc. Ils parlaient toutes les langues, évidemment, ils étaient polyglottes. Hein. Et donc, ça devait être... Donc c'est effectivement un monde disparu, ça c'est sûr. Quand on voit Thessalonique à l'heure actuelle, on peut voir retrouver quelques bâtiments, mais voilà, c'est un retour Ces villes cosmopolites, des grands ports du Levant qui suscitent une certaine nostalgie. Il ne faut pas non plus embellir, hein, tout n'était pas tout rose, hein. Mais quand même, il y avait cette cohabitation de toutes ces communautés.
Merci infiniment, Catherine Pinguet, d'avoir parlé avec nous donc, de votre actualité qui est double, hein, en fait. C'est l'exposition Salonique, Jérusalem des Balkans, 1870-1920, la donation Pierre de Gigord, qui se tient jusqu'au 21 avril 2024 au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je rappelle l'adresse, hein, rapidement, hôtel de Saint-Aignan, 71 rue du Temple, à Paris, dans le 3e. Et puis, ce que je pensais être un catalogue, mais qui est davantage, c'est vraiment une mine d'informations. C'est un grand ouvrage que vous avez écrit sur Salonique et qui donne un nombre impressionnant d'informations sur cette Jérusalem des Balkans et que je vous recommande aussi de lire.
Je précise que le plus grand historien, je me suis énormément référé à lui, c'est David Nard, qui a écrit Jewish Salonica, et qui est aussi l'auteur qu'on peut trouver ses articles en ligne absolument, vraiment, qui m'ont été extrêmement utiles.
Voilà, que vous remerciez, que vous citez au début de votre...
Alors, j'aurais voulu l'inviter, mais hommage, mais bon, on ne peut pas...
Une prochaine fois.
Une prochaine fois.
Merci en tout cas.
Merci à
vous. À bientôt. Au revoir.
Au revoir.